Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
Ravi de vous retrouver exceptionnellement ce vendredi 14 mai pour votre grand journal du soir. Deux heures d'infos et de débats d'idées avec dans 15 minutes notre invité, le sociologue Jean Viard. Il a enquêté sur les transformations héritées de la grande pandémie. Il y voit un détonateur écologique et un accélérateur de tendance. Il nous raconte la révolution qui peut en sortir et il parie surtout sur une soif de vivre des citoyens. À 18h30, le débat des grandes voix et nous reviendrons évidemment sur les tensions entre Israël et Gaza, un conflit qui s'importe de New York à Paris avec les manifestations non autorisées mais tant redoutées de demain. 19h10, la carte blanche, c'est celle ce soir de l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. La cancel culture a encore frappé avec le baiser du prince à Blanche-Neige, un baiser réinterprété comme un geste non consenti par l'héroïne de Disney. Et notre auteur s'indigne ce soir. Et puis 19h20, le club des idées, à l'heure où l'on cherche toujours l'origine du coronavirus et que l'on prend conscience des risques sur l'humain de la destruction de la biodiversité, on se pose la question, qu'y a-t-il d'animal chez l'homme et pourquoi nous avons tant de mal à voir la bête en nous? Avec nous, l'éthologue Jessica Serra et la spécialiste des singes, la vétérinaire Sabrina Krief, qui publie « Les chimpanzés, mes frères de la forêt ». Merci d'être avec nous pour ces deux heures d'infos. Voici d'abord le journal de Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Wendy.
Il est tout juste 18h au carillon d'Europe 1. Merci de votre écoute et de votre fidélité.
Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine, il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation.
Ne pas revivre le scénario violent de 2014. Gérald Darmanin interdit la manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris pour éviter les incidents.
Une situation qui divise et inquiète la classe politique française, qui craint une importation du conflit dans le pays. Les affrontements entre Palestiniens et Israéliens ont fait plus d'une centaine de morts.
Pronostic vital engagé pour le policier blessé à la tête lors d'une intervention à Rive-de-Gier. Il a reçu un projectile alors qu'il intervenait pour mettre fin au tapage nocturne provoqué par des jeunes.
Toujours aucune trace de Valentin Marcone, auteur présumé d'un double meurtre dans les Cévennes. Les gendarmes ne parviennent pas à établir un contact avec lui.
L'Amérique enlève le masque. Le président Biden autorise les Américains qui ont été entièrement vaccinés à le retirer en extérieur et en intérieur. Quand pourra-t-on faire la même chose en France? Anne Le Gall dans ce journal.
Il y a 30 ans, une femme accédait à Matignon. Édith Cresson était nommée première ministre par François Mitterrand. Une nomination qui lui a valu son lot de remarques désobligeantes et sexistes.
Une finale de Coupe de France royale. Le PSG sera opposé à Monaco le 19 mai, mais ce sera sans la star parisienne Neymar. On vous explique pourquoi, Simon Ruin, à la fin de ce journal. Et puis la Bourse de Paris, qui termine en forte hausse, plus 1,54% à 6385 points.
Quant à la météo, c'est une tenue de pluie qui s'impose. Bonsoir Anissa Zadi.
Bonsoir Wendy. En effet, les perturbations s'enchaînent demain et c'est une nouvelle journée pluvieuse qui nous attend sur quasiment toutes les régions et les températures de leur côté restent bien en dessous des normales de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Surtout ne pas importer le conflit israélo-palestinien en France. C'est l'obsession du gouvernement et d'une partie de la classe politique. On le verra plus loin, les choses ne sont pas aussi simples. Mais en attendant, dans la bande de Gaza et dans certaines villes israéliennes, il flotte comme un parfum de guerre civile, alors qu'un troisième front menace de s'ouvrir en Cisjordanie.
Oui, avec un bilan humain qui s'alourdit un peu plus chaque jour. Plus de 120 morts côté palestinien, une dizaine côté israélien. Et Pierre Herbelot, entre l'État hébreu et le Hamas, ce soir, l'escalade continue, Pierre.
Oui, et ce n'est pas encore fini. Déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'issue d'un conseil de défense cet après-midi. Il payent et continueront de payer chèrement, poursuit-il. Depuis ce matin, au moins 4 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie dans des affrontements avec l'armée israélienne en marge de manifestations. Mais c'est bien la bande de Gaza qui paye le plus lourd tribut. 119 morts et plus de 800 blessés en une semaine. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie qui se sont intensifiés. Réponse aux plus de 1800 roquettes tirées par le Hamas vers Israël depuis lundi. La plupart interceptées par le bouclier antimissile Dôme de Fer. C'est dans ce contexte d'extrême tension que Tsahal déploie chars et blindés aux portes de Gaza. À deux jours d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Emmanuel Macron a appelé son homologue Benjamin Netanyahou cet après-midi. Tout en reconnaissant le droit d'Israël à se défendre, le président français a insisté sur l'urgence d'un retour à la paix.
Pierre Herbulot, un conflit qui empoisonne la classe politique française divisée sur le sujet. Faut-il manifester sa solidarité et envers qui? Le gouvernement, lui, ne veut pas revivre le précédent de 2014 lorsqu'une manifestation pro-palestinienne avait dégénéré en émeute urbaine. Il vient d'interdire la marche prévue demain à Paris. Le ministre de l'Intérieur s'en est expliqué.
Il ne peut pas y avoir de manifestation de haine, il ne peut pas y avoir de manifestation antisémite en France. Et donc j'ai pris la décision de demander au préfet de police d'interdire cette manifestation, vu les renseignements que nous avions, qui ne pouvaient pas se passer dans de bonnes conditions. Le conflit israélo-palestinien est un conflit évidemment extrêmement touchant pour la plupart de nos compatriotes. Nous avons tous une opinion, des sentiments face à ces images ignobles qui nous viennent d'Israël et de Palestine, mais il ne doit pas s'exporter sur le territoire national. Et je veux dire que nous ne devons pas revivre les scènes ignobles de 2014 dans les rues de Paris.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur l'interdiction de cette manifestation. Une décision sage, salue la maire de Paris Anne Hidalgo. Une provocation, au contraire, juge le député La France Insoumise Éric Coquerel. Quant aux organisateurs de cette manifestation, ils ont saisi le tribunal administratif en référé pour obtenir son maintien. Décision qui sera rendue demain matin, Christophe.
À Rives-de-Gier, l'état du policier blessé à la tête lors d'une intervention inquiète toujours. Il a été hospitalisé après avoir reçu un projectile et son pronostic vital reste engagé. Une enquête a été ouverte, Guillaume Bier.
Oui, au départ, c'est une banale affaire de tapage nocturne. Une quinzaine de personnes alcoolisées qui font du bruit en pleine rue à minuit alors que le couvre-feu est toujours en vigueur. Des riverains appellent la police. Un équipage de 3 fonctionnaires tente de ramener le calme, mais la tension monte très vite et sous une pluie de projectiles, 2 policiers se réfugient dans leur voiture tandis que le 3e tombe inanimé, touché à la tête. Au fil des heures, son état de santé s'est aggravé. Il a été opéré, mais il est toujours dans le coma. C'est un policier et père de famille de 50 ans, très expérimenté, qui a fait toute sa carrière à Rives-de-Gier, qui a déjà frôlé la mort en intervention. C'était il y a 10 ans. Il s'était fait tirer dessus et avait eu la vie sauve grâce à son gilet pare-balles. Cette fois, son pronostic vital est engagé. L'enquête est menée par la Sûreté départementale, analyse en cours sur les projectiles retrouvés sur place. Visionnage des bandes de vidéosurveillance du quartier. Le procureur adjoint a également lancé un appel à témoins à quiconque permettrait d'aider à retrouver les agresseurs, y compris avec la possibilité de témoigner anonymement.
Guillaume Bier, merci, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans les Cévennes, maintenant, la traque dure depuis maintenant 4 jours et toujours aucune trace de Valentin Marcon.
350 gendarmes sont mobilisés sur une zone de recherche d'une quinzaine de kilomètres carrés au moins. Le secteur très boisé et escarpé rend les opérations difficiles. Celui qui est soupçonné de double meurtre reste introuvable. Stéphane Frangy, le problème, c'est qu'il n'y a toujours aucune piste sérieuse, aucun contact établi.
En effet, car tout d'abord, Valentin Marcon a l'avantage du terrain et de ses multiples cachettes qu'il connaît bien, mais le temps et l'usure de la traque jouent très clairement contre lui, estime le général 2 étoiles, Jean-Valéry Letterman.
Si le fugitif est toujours dans le secteur, ce que nous pensons, il doit ressentir toute cette pression autour de lui. Les chiens, les hélicoptères, les gendarmes postés partout. Quel est l'effet sur son psychisme, je n'en sais rien, mais ça doit quand même être marquant ou peser pour lui. Voilà. On ne sait jamais combien de temps va durer ce genre de poursuite de fugitif. On sait que ça peut durer et on est prêt à ce que ça dure.
Voilà, mais s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas surpris ici par la tournure incertaine que prend cette chasse à l'homme, c'est bien Claude Legrand, le président de l'association locale de chasse.
Ça va être très dur. C'est un loup solitaire.
Il n'a pas été pris à la gendarmerie ou dans l'armée. Maintenant, il veut jouer à Rambo. Il veut faire voir qu'ils ont loupé un bon élément. Il a mis nos vies, tout le monde en danger. Comme un détraqué, mais qui peut être très dangereux. Parce qu'il tire très bien, malheureusement. J'ai vu ses cibles en passant lors des battues au Sanguier. Les impacts étaient bien placés. Il ne ratait pas ses cibles.
Et le village du Plantier qui reste sous cloche, sous très haute protection militaire. Et ce chasseur nous confirme que l'ambiance sur place est lourde.
Stéphane Frangy, envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gard.
Europe 1, Wendy Bouchard.
L'info revient dans un instant sur Europe 1. Nous partirons aux États-Unis. Les Américains enlèvent le masque et la France. Christophe attend son heure.
Et puis Neymar est en pleine forme, mais il ne jouera pas la finale de la Coupe de France. On vous dit pourquoi.
Et Christophe Lamarre pour le journal, il est 18h09. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Aux États-Unis, c'est le président Joe Biden qui a créé la sensation cette nuit dans les jardins de la Maison-Blanche. Il a annoncé la fin du masque obligatoire.
Oui, les Américains qui sont entièrement vaccinés sont dispensés de masques à l'extérieur comme à l'intérieur. Il reste quand même recommandé dans les transports, les gares et les aéroports. Le masque, ce symbole de l'épidémie que l'on aimerait bien retirer aussi en France, Anne Le Gall, quand viendra notre tour ?
Alors effectivement, la question se pose parce que pour l'instant, chez nous, le Haut Conseil de la Santé publique recommande toujours le port du masque même après 2 injections, à l'exception des rencontres dans la sphère privée entre personnes entièrement vaccinées. Parce qu'il faut rappeler que si les vaccins empêchent les formes graves de Covid, ils ne bloquent pas totalement les transmissions. Et pour que les vaccinés puissent abandonner le masque, explique le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique au CHU de Lille, il faut donc aussi un contexte sanitaire favorable.
Cela suppose, comme aux États-Unis ou en Israël, 2 conditions essentielles. La première, c'est une population française vaccinée suffisamment importante et la deuxième, un taux de circulation lui aussi suffisamment bas. Il faudrait qu'on puisse atteindre aux alentours de 5000 contaminations quotidiennes pour pouvoir commencer à penser à libérer significativement la population de ces contraintes de masques.
Nous sommes donc encore loin de réunir ces critères car nous venons tout juste de passer sous la barre des 20 000 contaminations quotidiennes. Mais si le déconfinement se passe bien, sans aucun rebond épidémique et que le gouvernement tient ses objectifs de campagne vaccinale, on pourrait théoriquement réunir ces conditions et notamment plus de 60% de la population vaccinée à partir de début août.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. On va vous donner quelques chiffres. En l'espèce, le gouvernement devrait atteindre son objectif de 20 millions de primo-vaccinés ce soir ou demain. Nous en étions à 19 300 000 hier soir et sur la plateforme Doctolib que vous consultez peut-être régulièrement, près de 700 000 rendez-vous de première injection étaient pris pour aujourd'hui et demain. Ça progresse.
Voilà, confirmation aussi que l'épidémie poursuit son lent recul. Anne en parlait tout à l'heure, 16 729 nouveaux cas en moyenne chaque jour. C'est 20% de moins par rapport à la semaine dernière. Recul aussi dans les services de soins critiques des hôpitaux avec moins de 4 500 malades.
Il est 18h11 sur Europe 1. Nous avons fêté récemment les 40 ans de l'accession au pouvoir de François Mitterrand et des socialistes. Et on fêtera un autre anniversaire demain. C'est l'arrivée, Christophe Lamarre, d'une femme au poste de Premier ministre.
C'était il y a 30 ans, le 15 mai 1991. Edith Cresson est nommée Premier ministre, on devrait plutôt dire Première ministre, seule et unique femme à accéder à Matignon dans l'histoire de la Ve République. Et ce fut tout sauf facile. Elle était l'invitée de Mathieu Béliard ce matin sur Europe 1.
J'ai été tout de suite extrêmement attaquée, naturellement par les médias et aussi par les hommes politiques de droite et pas seulement de droite. Les gens qui ne me connaissaient pas, c'est-à-dire l'image qu'ils avaient de moi, c'était une image épouvantable qui était véhiculée par les médias. Les commentaires, c'était « elle porte des boucles d'oreilles, pourquoi ? Elle a un bracelet, comment ça se fait ?» Regardez comment elle marche. Ils se mettaient à genoux devant ma voiture pour filmer mes jambes, vous vous rendez compte? Et ils avaient même déclaré que j'avais un de mes collants qui était filé. Non, c'est inimaginable l'attitude de ces gens-là. Inimaginable.
C'est propre à la France, vraiment?
Totalement propre à la France. Totalement et uniquement, parce que j'ai quand même circulé beaucoup. Et puis j'ai vu comment ça se passe ailleurs. Jamais il n'y a des choses de ce genre ailleurs. Jamais.
Oui, les aveux incroyables. 30 ans après, d'Edith Cresson, ancienne première ministre, la seule de l'histoire de la Ve République, qui était donc ce matin l'invitée de Mathieu Béliard sur Europe 1. Le football, eh bien, c'est une finale de rêve. PSG contre Monaco. Les deux clubs vont se disputer la Coupe de France et on a pris date pour mercredi.
Oui, et le deuxième du championnat contre le troisième, ça fait une belle affiche. Mais il va quand même manquer un ingrédient, Wendy, pour relever le plat. Le Brésilien Neymar est suspendu et il y a une raison à cela, Simon Rubin.
Oui, alors c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître un peu bizarre. Neymar n'a pas été expulsé contre Montpellier, il a simplement reçu un carton jaune et c'est tout. Mais Neymar avait avant cela été expulsé contre Lille en championnat. Et le fait en fait d'être à nouveau sanctionné en Coupe de France a fait sauter un sursis dont il bénéficiait. Et cela a donc alourdi sa sanction. Le voilà donc exclu pour la finale. Alors, c'est un peu étrange, un joueur suspendu pour la finale sans avoir pris de carton rouge dans cette même compétition. D'ailleurs, l'intéressé lui-même a réagi sur son compte Instagram. « J'aimerais être dans la tête de celui qui a fait le règlement des cartons en France. » Il mérite des applaudissements. Quelle confusion, souligne-t-il, non sans une certaine ironie, vous l'aurez noté. Alors attention, l'histoire n'est peut-être pas finie. Le PSG peut demander une conciliation auprès du CNOSF, le comité olympique. Une démarche qui pourrait permettre de suspendre la sanction et donc offrirait à Neymar la possibilité de jouer cette finale.
Voilà, le suspense reste entier. Simon Rubin du service des sports d'Europe.
C'était le journal de Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour l'essentiel de l'info, Christophe. Merci. Un petit point météo, Anissa, bien. Sans grande surprise,
non,
vous l'aviez
oui.
prévu, annoncé, c'est une nouvelle journée pluvieuse demain.
Oui, avec une nouvelle perturbation, Wendy, qui arrive demain et qui va traverser tout le pays. Alors nous aurons demain matin, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, la région parisienne et même le Grand Est. Et bien dans toutes ces régions, nous aurons des pluies dès le début de la journée. Sur le quart nord-ouest, à l'arrière de la perturbation, sur la Bretagne, la Normandie et le centre-Val de Loire, là le temps reste sec. Un ciel partagé entre nuages et quelques toutes petites averses. Mais enfin, ça reste tout de même plus agréable que sur la moitié sud. Et puis en Provence, Alpes-Côte d'Azur, à l'avant de la perturbation, là, au bord de la Méditerranée, nous avons un temps sec avec du soleil, mais quand même des gros nuages assez épais qui viendront assez souvent masquer le soleil. Et puis attention, hein, le vent continue de souffler fort sur la Corse. Alors dans l'après-midi, le temps ne va pas franchement évoluer. Sur la moitié sud, on a toujours pas mal de pluie entre la Gironde Gironde et les Alpes. Et puis sur la moitié nord, les orages arrivent dans l'après-midi, effectivement, sur l'Île-de-France, le Grand Est ou encore la Bretagne. Donc c'est un temps très automnal pour ce 15 mai demain.
Très frisqué.
Les températures, elles sont stationnaires. 4 à 13 degrés demain matin. Dans l'après-midi, c'est comme aujourd'hui. 12 pour Aurillac, 15 à Lyon et Bordeaux, 17 pour Paris et Rennes, 19 à Biarritz et 22 la maximale pour Perpignan.
À tout à l'heure, Anissa. Merci.
À tout à l'heure.
Europe 1, Wendy Bouchard.
Dans deux minutes sur Europe 1, j'accueille un homme dont le métier et la sensibilité consistent à suivre les mutations de nos sociétés. Il regarde ce monde qui change. Le sociologue Jean Viard publie sa nouvelle enquête « La révolution que l'on attendait est arrivée ». Notre rapport au territoire, à la santé, à l'autre aussi. En quoi la pandémie nous a-t-elle transformé et pour combien de temps ? A tout de suite sur Europe 1. Il est 18h18. Merci d'être à l'écoute de ce 18-20 avec un échange ce soir qui va peut-être faire écho directement à vos propres questionnements. Votre métier, selon qu'il a été classé essentiel ou non essentiel au cœur de la crise, vous correspond-il encore ? Est-ce que vous remettez en cause votre vie à la ville face à des territoires en train d'être réenchantés ? C'est en partie l'éclairage passionnant de notre invité, docteur en sociologie. Bonsoir Jean Viard.
Bonsoir.
Avec votre enquête au titre prometteur, La révolution que l'on attendait est arrivée aux éditions de l'Aube. Alors on a envie sans doute d'une nouvelle civilisation et on va voir comment elle se dessine. Mais l'actualité nous rattrape. Prenons Israël, Jean Viard. Il aura suffi qu'on sorte des confinements, que les habitants juifs ou arabes soient vaccinés contre le Covid, qu'ils reprennent une vie normale pour que les roquettes repleuvent de nouveau. Ça, c'est un contre-exemple désespérant de ce monde différent et nouveau.
Vous savez, tout ne va pas changer brutalement, et là où les gens sont malheureux ou en tension, ils vont plutôt être plus malheureux et plus en tension. On pourrait prendre d'autres incidents avec les policiers en France, si vous voulez. Je pense qu'on est tous à bout de nerfs, ou beaucoup à bout de nerfs, et on vit dans le quotidien, c'est-à-dire on vit les vaccins, le fait de pas être sorti, de pas avoir vu nos amis, tout ça, et on voit bien qu'il va y avoir partout des crises, j'allais dire, de violence nerveuse, c'est très probable, et en même temps, je pense que si vous voulez, la société a beaucoup évolué, on a tous réfléchi, on est devenus des adeptes du numérique, et si vous voulez, on a bien compris que l'homme n'était pas maître et possesseur de la nature, on le voit bien avec ce virus, donc on a bien compris que le rapport entre l'humanité, j'allais dire, et la nature, pas l'environnement, la nature, le réchauffement climatique, tout ça, il faut que ça change. Je crois qu'il y a tout ça en même temps.
La grande pandémie, comme vous l'appelez, celle qui arrivera dans les livres d'histoire, elle est porteuse pour vous, Jean Viard, d'innovation, de transformation, de création. Et de révolte. De quelle révolte parlez-vous par rapport à un modèle que l'on a envie de balayer
révolte, si vous... Oui, je pense que, vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes malade, quand vous descendez de votre lit, j'allais dire, parce que vous êtes guéri, vous avez envie de regarder votre vie un peu différemment. Et au fond, c'est un peu la situation qu'on vit, à la fois individuellement, mais on a envie de se demander quel est le sens de mon couple, quel est le sens, pourquoi j'habite là. Regardez des milliers de gens qui sont en train de déménager, regardez les gens qui vont dire, mais mon métier, au fond, à quoi il sert mon boulot? Voyez, alors bien sûr, il y en a aussi qui vont être licenciés parce que leur boîte fait faillite, etc. Donc, tout le monde ne choisit pas et on n'est pas tous dans la même situation, bien sûr. Mais oui, dans les études, on estime que 10% des gens veulent changer de vie. C'est d'ailleurs le taux de séparation qu'on a observé à Wuhan en Chine.
Oui.
Donc, il va y avoir tout ça. Et au fond, la question, c'est soit tout ça, soit ça fait de la haine, ça fait du conflit parce qu'il n'y a pas de perspective. Soit on est capable de dire, comme souvent, quand on sort d'une tragédie, qu'est-ce qu'on fait ? Après les guerres, c'est comme ça. Les grandes pandémies dans l'histoire ont été des grands moments de changement culturel. Et donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est de l'aller plutôt vers le changement culturel que vers la violence.
Bien sûr, et 10% des individus qui veulent changer de vie en France, ça fait 4,5 millions d'adultes. C'est une révolution qui peut en partie venir de ces candidats au changement, Jean Viard, que vous notez ?
Oui, et puis d'abord de ces candidats au changement. Regardez les gens qui déménagent. Il y a plein de villes où il y a une demande énorme. À Paris, les prix baissent, etc. Pour prendre que l'exemple parisien. Mais si vous voulez, comme toujours, ça ne fait que renforcer ce qui était déjà là. Paris perdait déjà des habitants. Mais d'un coup, il y a plein de gens qui se disent « Bon, et si on s'en allait ?» Ils rêvaient un peu, vous savez, le soir sur l'oreiller. Et puis d'un coup, ils le font, quoi. Donc il y a tout ça, et puis il y a autre chose, c'est que du coup, ceux qui habitaient à une heure de Paris, à Tours, ou ceux qui habitaient dans les grandes périphéries d'Île-de-France, on leur disait un peu qu'ils étaient nuls depuis quelques années. En gros, le modèle, c'était t'habites en ville, tu fais du vélo, etc. Il y avait déjà eu la révolte des Gilets jaunes qui disaient, mais attendez, votre modèle, c'est pas le mien. Et là, tous ces gens sont revalorisés, parce que pendant la crise, il a mieux valu une maison en lotissement avec un bon jardin qu'un petit appartement sans terrasse. Donc la hiérarchie de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, a beaucoup bougé.
Oui, vous faites une lecture très intéressante de ce changement de vie, de projection de vie aussi, avec une nouvelle échelle de valeur quelque part, Jean Viard, que vous soulignez dans votre livre. Vous dites que les nations ont fait le choix de casser leur économie pour sauver les vieux, pourtant improductifs, et ça, c'est inédit.
Mais si vous voulez, si on réfléchit, moi, j'aimerais que le récit qu'on construise au fil des années qui viennent, c'est le récit de dire 5 milliards d'êtres humains ont fait la même chose, oui. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité.
Qu'est cette coordination ?
On s'est tous battus dans le même sens. D'habitude, on se bat plutôt les uns contre les autres. Et pourquoi faire ? Ben, pour sauver les improductifs, au fond, hein, que ça soit les malades, les personnes âgées. On a cassé l'économie, on a bouleversé nos sociétés, on s'est gâché la vie, il faut dire les choses comme elles sont, pour sauver, au fond, ce qui nous coûte cher, qui coûte à la sécu, si on peut le dire comme ça. Écoutez, c'est magnifique, on peut le raconter comme une épopée extraordinaire. Moi, je le vois comme une épopée extraordinaire. Vous savez, chaque fois qu'on disait il y a 300 morts, je disais on a sauvé 3000 personnes. Si vous regardez les choses comme ça, c'est pas la même lumière.
C'est vrai, et vous soulignez ces deux chemins d'importance qui paraissent un peu paradoxaux comme ça. La coopération entre États, que vous venez de nous dire, Jean Viard, et puis le repli dans les frontières pour la protection, pour le salut des individus. Finalement, on a pu faire coexister ces deux lignes.
Mais ça nous a montré qu'on pouvait les faire cohabiter. Alors oui. Que depuis en gros 50 ans, il y avait ceux qui vous disaient qu'il faut ouvrir toutes les frontières, le marché doit tout réguler. Et en gros, la valeur des choses était le seul critère. Quoi. On a fait des masques en Chine, vous vous rendez compte, les quelques centimes qu'on a dû gagner pour faire les matchs de l'autre côté de la Terre, c'est totalement absurde. Mais c'était le tout économique qui a servi pendant 50 ans. On en est sorti, on se rend compte qu'on peut réguler. Alors oui, ça commence au sourire. Hein. Donc les codes entre les individus, le consentement, le voisinage, les 10 kilomètres, les frontières, et puis en même temps l'Union européenne, etc. On se rend compte qu'il y a un jeu entre... On est tous en commun dans la même aventure, on habite la même terre, on a au fond les mêmes valeurs fondamentales. Les populistes ont été les plus nuls, il faut quand même le dire. Tous les pays populistes ont eu beaucoup plus de morts, mais même le totalitarisme chinois finalement a été très efficace. Et en même temps, on a réutilisé les frontières et les limites. Et je pense que le monde de demain va être un jeu entre coopération et frontières à tous les niveaux, au niveau du local, au niveau du national, au niveau de l'européen. Et au fond, peut-être qu'on va retrouver un peu des règles de protection dont avaient tellement besoin les milieux populaires qui disaient... Mais attendez, c'est bien joli votre système où tout est ouvert, mais moi j'ai plus de travail.
C'est vrai, ce livre est passionnant. La révolution que l'on attendait est arrivée. Écrivez-vous aux éditions de l'Aube. Jean Viard, vous nous avez parlé du rapport au travail qui a changé inévitablement. De cette crise qui a mis en valeur aussi l'importance capitale de l'école. Ça, on le savait comme lieu d'apprentissage, mais comme second lieu de vie pour les enfants. Ça a été flagrant.
Mais oui, si vous voulez. Parce qu'on avait un peu. Vous savez, l'école, ça fait pas. À un moment, ça devient une habitude. On y dépose les enfants, c'est commode, on peut aller travailler, on peut faire ce qu'on veut. Et puis d'un coup, on s'est rendu compte que l'école, c'était essentiel, que les enfants, c'était leur deuxième maison, si vous voulez. En plus, comme il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, on s'est rendu compte aussi que l'école, elle était attaquée par des forces avec qui on est en guerre, faut dire les choses comme elles sont, des islamistes radicaux. Et on a vécu tout ça en même temps, c'est mélangé. Mais je crois que surtout, les enfants ont gagné le droit d'avoir une deuxième maison. Ça modifie nos rapports de parents. Moi qui ai eu beaucoup d'enfants, d'un coup, je me dis effectivement, attendez, oui, il est très content d'être à la maison, mais il a une autre maison, il a d'autres relations, des gens que je connais peut-être pas. Et si vous voulez ça, je crois que ça nous fait réfléchir. L'école est revenue au centre de la société. Je trouve ça extraordinaire.
Oui, vous n'ignorez pas tous ceux qui ont été sacrément cabossés, voire marqués à vie par cette crise, évidemment, Jean Viard. Mais vous essayez de dessiner le monde de demain, cette nouvelle civilisation, écolo, numérico, planétaire. Ce qui est sûr, c'est que le détonateur sera écologique. Vous en êtes convaincu ?
Mais c'est-à-dire, si vous voulez, on était déjà à la fin d'un cycle, on le sentait bien avec la montée des régimes populistes, l'instabilité des systèmes en place. On sentait bien que, disons, le modèle politique construit après la révolution industrielle était périmé. On avait tous un peu ce sentiment. D'ailleurs, la majorité des gens n'allaient plus voter. Et il faut l'écouter, pourquoi les gens votent pas. Et puis d'un coup, là, peut-être qu'on a réouvert une porte, si vous voulez, d'une part, parce qu'on a basculé dans le monde numérique. La principale moyen de limiter la pollution des voitures, c'est de communiquer par le numérique. Mmh. Donc, si vous voulez, le lien numérique a pris le pied sur le pétrole. Ça, c'est un changement, je pense, gigantesque et qui va durer. Oui. Il va falloir se battre pour aller se voir, à mon avis. C'est tellement commode de faire un Zoom ou un Skype. Donc, il va y avoir ça. Vous voyez, il y a tout ça qui va changer. Et puis, je pense qu'on savait tous que le rapport à la nature n'était pas au point, qu'il y avait le réchauffement climatique, tout ça, on commençait à... Mais en gros, on pensait qu'on pouvait rien faire, quoi. Oui, je pouvais trier mes poubelles, tout ça. Enfin, ça a un côté un peu dérisoire. Et on sentait bien que d'un côté, il y avait, je dirais, des radicaux écologiques, militants durs, qui, au fond, nous, on trouvait qu'ils étaient sympathiques. Mais quand même, ils étaient tellement radicaux qu'on n'avait pas envie de vivre comme ça. Et de l'autre côté, on avait effectivement l'impression que ça, on n'arriverait à rien. Et d'un coup, attendez, on est 5 milliards à faire la même chose. On s'est enfermé chez nous. La science, on a investi des centaines de milliards dans la science qu'on n'avait plus fait depuis très longtemps. Le monde a changé dans ses fondamentaux. Et je pense, si vous voulez, que ça ouvre de l'espoir, au fond. Comme toutes les tragédies, une tragédie, c'est créateur. Mais il faut entendre aussi ceux qui souffrent. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne les oublie pas.
Oui.
Mais après, il faut ouvrir la porte de la période suivante.
Accélérateur de tendance, cette grande pandémie, comme vous l'écrivez, en quelque
quelques mots, Jean Viard, il y a un mais et un bémol très important. C'est ensuite aux politiques locaux, nationaux, internationaux de se saisir de ces changements. Il ne faudrait pas qu'ils passent à côté du changement de cette société, de cette mutation.
C'est vrai. Comme toujours, si vous voulez, les sociétés se construisent par les projets que les hommes fabriquent. Et moi, je suis un intellectuel, donc j'essaye de raconter la pandémie, de donner des clés aux politiques. Ben, quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que les nouveaux leaders, d'une certaine façon, ils sortent de l'ornière, qu'ils auraient certainement pas fait sans la pandémie. La question, c'est est-ce qu'en France, on va avoir la même situation, soit avec le même président qui va changer sa perspective, soit avec un autre qui va prendre la place. Mais c'est sûr que les politiques ont un enjeu. L'Europe a fait un grand pas dans cette période, il faut quand même le dire. Donc si vous voulez, voilà. Donc là, c'est vrai l'enjeu. Et si les politiques ne sont pas bons, ça va être d'une violence épouvantable.
Merci infiniment, Jean Viard. La révolution que l'on attendait est arrivée. C'est votre ouvrage aux éditions de l'Aube qui sort dans quelques jours et c'est passionnant. Bonjour à votre belle Provence et province. Hein. C'est la France que vous aimez qui ne regarde pas de haut, si je vous ai bien lu aussi. C'est important.
Merci beaucoup.
Merci Jean Viard.
Europe 1. Wendy Bouchard.
On se retrouve dans un instant pour l'essentiel de l'info sur Europe 1. Le débat des grandes voix, le conflit au Proche-Orient évidemment. Et puis les stars du gouvernement dans les Hauts-de-France. Quel est l'ennemi au juste ? Xavier Bertrand ou Marine Le Pen ? A tout de suite. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. 18h30, c'est l'essentiel de l'info, Christophe Lamar.
La situation menace de devenir hors de contrôle au Proche-Orient. Les manifestations de colère et les violences s'amplifient en Cisjordanie. L'armée israélienne qui continue ses frappes aériennes sur Gaza pour tenter de réduire au silence les tirs de roquettes du Hamas. On déplore plus d'une centaine de morts côté palestinien. Le gouvernement français qui craint une importation du conflit en France. Le ministre de l'Intérieur fait interdire la manifestation pro-palestinienne prévue demain à Paris. Ses organisateurs ont saisi la justice en référé pour obtenir son maintien. Décision attendu demain. Le policier blessé à la tête lors d'une intervention à Rive-de-Gier est dans le coma. Son pronostic vital est engagé, indiquent les autorités. Il a été visé par un projectile hier soir alors qu'il intervenait pour faire cesser un tapage nocturne. Et puis la quarantaine obligatoire pour rentrer en France étendue à 4 autres pays. Les voyageurs en provenance de Colombie, du Costa Rica, de l'Uruguay et du Bahreïn devront justifier d'un test PCR négatif de moins de 36 heures. Ils devront également observer une quarantaine stricte de 10 jours.
Merci Christophe. À tout à l'heure, 19h pour le journal. Pour le ciel, eh bien, ça reste extrêmement pluvieux, Anissa.
Et oui, c'est un défilé de perturbations, Wendy, qui nous attend pour demain, mais pas que, hein, pour les jours qui arrivent. Alors pour demain, le menu sera humide avec des averses sur la moitié nord toute la journée. Averses qui vont alterner avec quelques petites éclaircies et puis des orages, hein, qui éclatent dans l'après-midi sur la Bretagne, la région parisienne ou encore la Lorraine. Pour la moitié sud, là, nous avons des pluies plus importantes que dans le nord, sur toutes les régions, sauf le pourtour méditerranéen. Les températures, elles restent fraîches pour la saison. Les mêmes qu'aujourd'hui, 4 à 13 degrés le matin. Nous aurons 4 à Embrun, 9 pour Paris et Besançon et 13 à Nice. Dans l'après-midi, seulement 12 à 22 degrés, 12 à Aurillac, 17 pour Rennes et Paris et 22 la maximale pour Perpignan ou encore Saint-Raphaël dans le Var. Dimanche, gardez vos parapluies près de vous aussi.
Ben voilà, vous êtes prévenus, merci, vive le mois de mai.
Europe Soir, le 18-20, Wendy Bouchard.
Et le débat des grandes voix d'Europe 1, il est 18h32, vous êtes à l'écoute en ce vendredi 14 mai. Et avec nous ce soir, Aurélie Herbeumont, chef adjointe du service politique. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
L'historien Jean Garrigue, bonsoir. Jean Garrigue. Et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Franck. Vers la guerre au Proche-Orient, les craintes de guerre civile et d'importation du conflit, les répercussions en France, on va y venir. Et au cœur de l'actualité, le quotidien des Israéliens et des habitants de Gaza. Ce sont ces violences persistantes, les répliques de l'armée contre les 1800 roquettes envoyées depuis lundi par le Hamas sur l'État hébreu et les mots clairs du Premier ministre israélien Netanyahou. J'ai dit que nous infligerions de sérieux revers au Hamas et à d'autres groupes terroristes. Ils payent et continueront de payer chèrement. Et ce n'est pas fini. Voilà la situation en France, Franck Dedieu, une situation qui inquiète. Jusqu'à Emmanuel Macron, évidemment, qui a échangé aujourd'hui avec le Premier ministre et qui insiste sur son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël. C'est la position de la France.
C'est une position qui est assez classique. Hein. Le Premier ministre israélien a dit qu'il était clair. En revanche, il y a un manque de clarté ici ou là, et en particulier aux États-Unis, où on attend toujours quand même une réaction forte de Biden, qui manifestement a délaissé ce sujet. Et donc, effectivement, la position de la France est assez attendue. Elle est, je dirais, fondée sur la raison et puis, quelque part aussi, l'histoire du pays. Après, La question est de savoir si, justement, ce conflit, quelle que soit la position qu'on peut avoir de l'Élysée à l'égard du conflit, est-ce qu'il est exportable ? Moi, je pense que c'est le cas, et c'est ce que redoute, on va peut-être en parler, le ministre de l'Intérieur Darmanin. Pourquoi il est exportable ? Parce qu'il est extrapolable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sujets qui clignotent ici ou là et qui scindent en deux. Je dirais parfois même malgré nous, qui scindent en deux, en deux parties. Vous avez la question, vous êtes plutôt pro-palestinien, alors vous serez accusé de gauchiste. Vous êtes plutôt pro-israélien, vous allez être pas très clair avec votre relation avec les États-Unis. Mais tout cela aussi en ces circonstances sanitaires de tension politique, je dirais, se répand sur tout autre sujet. Vous êtes pro-Raoult, vous êtes un complotiste, vous êtes anti-Raoult, vous êtes un élitiste, vous êtes pro... Bref. C'est pour ça que, quelque part, la problématique de l'exportation de ce sujet inflammable doit être prise au sérieux. Je pense qu'on peut valablement considérer que le sujet est inflammable.
Oui, à une nuance près qui est d'importance, Jean Garrigue, c'est que c'est le Hamas qui est à la manœuvre, organisation terroriste avec laquelle on ne discute pas, avec laquelle on ne négocie pas. Ça change la donne.
Oui, et dont on sait bien qu'elle est armée par l'Iran et que interviennent, mais depuis toujours, depuis 1947 et même avant, dans le conflit israélo-palestinien, des enjeux géostratégiques régionaux qui font intervenir d'autres puissances que simplement les Palestiniens et les Israéliens. Alors évidemment, ce qui aujourd'hui rend quasiment impossible toute résolution diplomatique du conflit, c'est que d'un côté, vous avez le Hamas, et d'autre côté, vous avez l'extrême droite israélienne, en réalité. Mm-hmm. D'ailleurs, y a-t-il encore une gauche israélienne ? C'est tout le problème, parce que les processus qui avaient été lancés dans les années 1990 sont aujourd'hui complètement en déshérence, parce que la gauche israélienne n'a plus aucune puissance, aucune force de négociation. Et puis, comme les États-Unis, comme ça vient d'être dit, Joe Biden, lui, a voulu se recentrer sur les questions intérieures, et il est très en difficulté sur ces questions. Il y a le secrétaire d'État, Blinken, qui a passé des coups de fil, qui est très présent là-bas, mais il n'y a pas une vraie ligne diplomatique américaine. Et on sait bien de toute manière que cette ligne, elle est toujours contrainte par ce qu'on appelle le lobby, en tout cas les influences d'Israël aux États-Unis,
oui, oui.
Et que ça empêche véritablement de frapper du poing sur la table face à Israël. Donc tout ça fait une situation bloquée, et comme vous le dites, c'est une situation aussi qui est exportable, puisqu'on sait bien que tous les enjeux aujourd'hui des relations entre les communautés musulmanes et juives de France sont directement connectées à ce qui se passe là-bas.
Exportable.
Et donc ça fait quelque chose de très éruptif.
Oui, exportable, comme on a vu ces scènes de violence à New York, exportable en Allemagne, exportable en France, Aurélien Herbemont, cette escalade d'importation, ce contre quoi met en garde le vice-président de la Commission européenne qui est très préoccupé par ces manifestations, ces actes d'antisémitisme. Voilà pourquoi Gérald Darmanin interdit les manifestations pro-palestiniennes de demain.
Interdit effectivement la manifestation parisienne et dans d'autres grandes villes, mais dans certaines villes, elles sont autorisées à ce stade. C'est vrai que l'exécutif fait extrêmement attention parce qu'effectivement c'est importable, exportable en France et donc importable en France. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron évidemment condamne avec la plus grande fermeté depuis hier les lancements de roquettes par le Hamas et d'autres organisations terroristes. Et sans condamner fermement la riposte israélienne qui fait, disons-le, beaucoup plus de morts, parce que le bouclier antimissile israélien fait que 90% des roquettes sont stoppées. Et vous avez,
sans ça, il y aurait des milliers de morts, probablement.
Exactement. Mmh. Et donc, comme le bouclier antimissile est très, très performant, vous avez 9 morts côté israélien, et la riposte israélienne du côté palestinien a déjà fait 119 morts, dont une trentaine d'enfants. Donc Emmanuel Macron doit faire extrêmement attention sans condamner frontalement la riposte israélienne. Mais d'ailleurs, hier, ce qu'il a fait, un de ses premiers messages, c'était d'adresser ses condoléances à Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression de soutenir Israël, quelle que soit la riposte, sachant que ça fait des plus de 100 morts à ce stade. Donc il faut faire extrêmement attention. Dans un contexte où il y a des manifestations interdites demain, on sait qu'il y a déjà eu des manifestations interdites qui se sont déjà produites,
2014.
Malgré les interdictions.
Oui.
Donc c'est vraiment à manier avec une infinie précaution.
Une interdiction de manifester qui est récupérée forcément par la politique. Jean-Luc Mélenchon la critique. Également Olivier Faure, Franck Dedieu. Est-ce que cette Est-ce que cette riposte était attendue, classique, j'allais dire, de la part de cette gauche et de cette extrême gauche?
Oui, classique. Mmh. Et je dois dire qu'on est en train de jouer un scénario qui est un petit peu triste et assez nouveau, finalement. C'est de se dire, la gauche va être pro-palestinienne et la droite pro-israélienne. Alors, de façon, bien sûr, avec de larges nuances. Mais c'est un peu cela que joue Jean-Luc Mélenchon. Et il faut savoir que c'est assez nouveau parce que historiquement, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas du tout. De Gaulle n'a pas du tout une droite et va avoir une politique plutôt pro-palestinienne, disons pro-arabe. François Mitterrand.
Jacques
Chirac, bien entendu. Et François Mitterrand va essayer de jouer un petit peu les deux, sachant qu'à partir des années 90, il y a une gauche plus atlantiste qui va évidemment prendre, plutôt dans la mesure où elle soutient les États-Unis, prendre plutôt être plus en retrait par rapport à la cause palestinienne. Donc là, on est en train de jouer quelque chose d'assez, je dirais pas classique, d'assez caricatural et dangereux. Parce que ce que je disais dans mon première intervention, c'est qu'on a une multitude de sujets qui sont inflammables, qui clignotent et qui scindent la population en deux. Et moi, ça me fait, je dois avouer que par rapport à cette interdiction-là, la dernière fois, en 2014, on a quand même des propos. Il y a eu des propos antisémites, il y a eu des épiceries cachères qui ont été mises à sac. Enfin, je veux dire, c'est pas possible de voir ça en France.
On fait une petite pause, je vous donne la parole juste après Jean Garrigue sur ce sujet d'importance et puis nous irons ensuite dans les Hauts-de-France, la stratégie du déploiement des stars du gouvernement, comment on l'interprète. À tout de suite dans ce débat des grandes voix. Et les grandes voix d'Europe 1 ce 14 mai. Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et Jean Garrigue, historien, observateur assidu de notre société et de cette récupération politique dont nous parlions à l'instant. Interdiction de manifester, décision saluée par Anne Hidalgo, par Manuel Valls, décision de Gérald Darmanin. Et face à cela, la critique évidemment de la France Insoumise, la riposte de Jean-Luc Mélenchon qui critique vivement cette interdiction.
On voit très bien ressurgir ce que Manuel Valls appelait les gauches irréconciliables. Mmh. Il y a une tradition d'amitié avec le peuple israélien, l'État d'Israël, du côté du Parti socialiste. François Mitterrand et beaucoup d'hommes de son entourage qui étaient liés avec le Parti travailliste israélien. Aujourd'hui, évidemment, le Parti travailliste israélien est en position de faiblesse. Les liens avec Israël sont assimilés, une sorte de complicité avec le Likoud, avec Benjamin Netanyahou, ce qui n'est pas du tout la position des socialistes. Mais de la part de la France insoumise, jouer avec ces braises, là, notamment de ce qu'on pourrait dénoncer comme l'islamophobie, on le sait bien que ça devient quelque chose de récurrent et c'est quelque chose de très dangereux parce que se sont multipliés depuis quelques années les attentats antisémites, il ne faut pas se le cacher. Il y a un antisémitisme dans la communauté musulmane de France qui est un fait qui monte de plus en plus. Et donc si vous attisez là ce feu, ces braises-là, ben, je pense que vous faites quand même beaucoup de mal à la cohésion nationale.
Il ne faut pas oublier de qui on parle une fois de plus, le Hamas et les organisations terroristes, ce sont les ennemis de la République, le décapiteur de Samuel Paty, les terroristes du Bataclan, enfin, on ne peut pas oublier tout ça aussi à l'aune de ce conflit proche-oriental qu'on caricature parfois aussi, vu de France, Aurélie Herbemont.
Effectivement, il y a cet aspect-là qui n'est pas négligeable, même si c'est vrai que dans l'absolu, interdire des manifestations dans le pays des droits de l'homme, c'est un droit constitutionnel, c'est toujours gênant, sauf que l'exécutif a très peur de voir
du message
ce qui
envoyé.
S'est passé en Allemagne ces derniers jours, des drapeaux israéliens brûlés juste devant des synagogues. Ce qui peut laisser penser que parfois, derrière l'antisionisme, il y a de l'antisémitisme. Donc c'est ça que le gouvernement veut à tout prix éviter demain.
Bien sûr.
Y arrivera-t-il ? Parfois, 2014, la fameuse manifestation qui avait dégénéré avait été interdite. Et d'ailleurs, les insoumis disent aujourd'hui, si ça a dégénéré, c'est parce qu'elle avait été interdite et que du coup, ça radicaliserait. Donc c'est un problème un petit peu sans fin, qui fait que la journée de demain va être à surveiller avec beaucoup, beaucoup d'attention.
Absolument, Franck Dedieu.
Oui, on a parlé de la gauche avec, justement, alternativement, ou pas alternativement, mais concomitamment, être pro-palestinien et pro-israélien. Mais ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'il y a eu une sorte de cause de substitution. C'est-à-dire que la gauche, dans son ensemble, à partir du moment où elle a plus ou moins abandonné la classe ouvrière et les travailleurs, il y a trouvé une sorte de cause de substitution en la personne des Palestiniens. Et donc, vous êtes passé d'une sorte de prolétariat social à un prolétariat territorial, ce qui crée une sorte de facilité et de, je dirais, c'est pas payant sur le plan électoral.
Franck De Dieu, Jean Garrigue, Aurélie Herbemont, c'est une situation évidemment qu'on suivra de très près, au même endroit, en effet en 2014 à Paris, tout près du métro Barbès. Ces manifestations étaient interdites mais ont dégénéré. Il est 18h45, on va faire une petite pause et puis on va s'attarder maintenant sur la campagne pour les régionales et départementales qui s'accélère. Le gouvernement envoie un certain nombre de ses ministres, stars, d'Éric Dupond-Moretti à Gérald Darmanin. Quel est l'ennemi au fond? Eh bien, on y vient. Et nos grandes voix de ce soir, Aurélie Herbemont, Jean Garrigue et Franck De Dieu de Marianne. C'est donc officiel, Gérald Darmanin sera candidat dans les Hauts-de-France aux élections régionales face à son ami de toujours, Xavier Bertrand. D'autres poids lourds du gouvernement se retrouvent sur ces listes départementales et régionales. Alain Griset, Agnès Pannier-Runacher et Éric Dupond-Moretti qui attaquaient il y a quelques jours le président sortant des Hauts-de-France.
C'est une escroquerie que de dire aux gens qu'on va les représenter. Et puis une fois qu'on est élu, regardez d'ailleurs, s'agissant de Monsieur Bertrand, il s'investit ici dans la région, mais il dit « je veux aller à l'Élysée ». On ne peut pas à la fois être à la région et à l'Élysée.
Quelle est l'idée, Aurélie Herbemont? On affaiblit de tous les côtés Xavier Bertrand pour pouvoir ensuite faire alliance avec lui au second tour et le dissuader de sa candidature à l'Élysée.
Il y a un côté un petit peu machiavélique dans la stratégie de la Macronie, qui a donc pas moins de 5 ministres candidats sur les listes dans les Hauts-de-France, avec un calcul qui est un petit peu particulier, puisque soit...
Il y a 13 régions déjà.
Pardon ?
Il y a 13 régions.
Il y a 13 régions, mais sur particulièrement les Hauts-de-France, eh bien... Soit en tendant le duel avec le Rassemblement National, avec le renfort d'Éric Dupond-Moretti, qui pour le coup tape Xavier Bertrand, mais est spécifiquement envoyé en mission pour s'opposer au Rassemblement National. Ça risque de faire monter un petit peu la liste de la Macronie, qui pour l'instant est à 10%, donc pas sûr d'être qualifiable pour le second tour. Vous avez donc cet aspect-là. Ça peut faire monter aussi Sébastien Chenu, qui est candidat du Rassemblement National, parce que ça va tendre l'enjeu. Le but étant évidemment d'affaiblir Xavier Bertrand pour arriver à un second tour où, soit cas extrême, le Rassemblement National finit par gagner. Donc vous avez éliminé un concurrent d'Emmanuel Macron pour la présidentielle en la personne de Xavier Bertrand, puisqu'il a dit « si je perds en juin, c'est terminé, j'arrête la politique ». Et s'il a besoin pour se sauver sa région du renfort d'En Marche, c'est pas très bon non plus pour Xavier Bertrand, puisque s'il est sauvé par les macronistes contre le Rassemblement National, imaginez la gymnastique après qu'il faut faire pour dire « par contre, merci de m'avoir aidé, mais maintenant je vais me présenter contre le président de la République ». C'est très compliqué, ils essayent de le lester par tous les moyens, en envoyant tout plein de ministres, notamment Gérald Darmanin, qui, ironie de l'histoire, en 2015, c'était qui le directeur de campagne de Xavier Bertrand pour la région Hauts-de-France? C'était Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin est en toute fin de liste. Il n'était pas forcément très, très motivé pour y aller parce que quand même, bon, il a été le bras droit de Xavier Bertrand pendant des années, mais quand même, il est enrôlé dans ce combat pour aller faire du mal à Xavier Bertrand, parce que Bertrand a prévenu, il ne veut pas d'alliance au second tour avec eux, parce qu'il sait qu'il se lesterait d'un boulet très difficile pour la présidentielle. Donc ça va être une équation très, très compliquée dans les Hauts-de-France qui va conditionner une partie de l'élection présidentielle.
Machiavélique, avez-vous dit? Je retiens cet adjectif. À tout le moins, ça pose la question, Jean Garrigue, plus largement de la stratégie de la Macronie. Les Hauts-de-France, la région PACA, l'objectif, c'est fracturer la droite à tout prix déjà?
On voit bien, de toute manière, c'est la continuation du Big Bang de 2017. Parce que, regardez, Xavier Bertrand, il n'est plus républicain. C'est paradoxalement peut-être le meilleur candidat, le candidat potentiel de cette famille, mais il n'est plus dans le parti des Républicains. Oui. Quant à Gérald Darmanin, maintenant, il est à La République En Marche. Oui, c'est vraiment ces élections régionales, c'est le pré-premier tour de l'élection présidentielle. Il s'agit d'abord d'affaiblir tous ceux qui pourraient être des prétendants de la droite à cette élection présidentielle. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse en Île-de-France. Alors, c'est Pour le Renaud Muselier, c'est différent parce que là, il s'agissait d'une alliance qui aurait pu, et d'ailleurs qui a finalement se réaliser à l'échelle régionale. Et Jean Castex a commis, me semble-t-il, une grosse erreur politique que de nationaliser cet enjeu de l'élection en PACA, enfin, ça peut plus totalement Provence-Côte d'Azur, je crois. Donc là, il y a eu une erreur stratégique très, très, très forte. Mais on voit bien, là encore, à quel point on est dans des calculs qui visent à dissoudre cette droite. On a vu qu'en PACA, ça a provoqué le départ qui était d'ailleurs prévu en quelque sorte, mais enfin de Christian Estrosi et de Hubert Falco. Donc vous voyez, à tous les niveaux, on essaie d'affaiblir Xavier Bertrand avec Gérald Darmanin et Dupond-Moretti, même si la cible principale là, c'est quand même le Rassemblement National. Mais on essaie d'affaiblir...
Bah, est-ce qu'on peut en douter Non, mais compte tenu des sorties multiples et irrégulières.
Malgré tout, en tout cas, Dupond-Moretti en a fait sa cible officielle.
Absolument.
Après, c'est autre chose. Oui. Ça veut dire qu'ils seraient, à la limite, peut-être plus habiles que ce qu'ils ont fait en région PACA. Mais de toute manière, il faut quand même... Il y a une donnée de base, c'est que, de toute manière, ces élections régionales pour La République En Marche, c'est forcément un fiasco. Donc, l'objectif, c'est quand même d'être au moins à 10% au second tour pour pouvoir essayer de jouer un peu les arbitres.
D'accord.
Et essayer d'affaiblir au maximum les adversaires.
Mais voilà. Quel jeu dangereux, Franck de Dieu. Un sondage Ipsos donné au début du mois, Xavier Bertrand en tête des intentions de vote à 35% devant la liste RN de Sébastien Chenu. Il est président sortant des Hauts-de-France. Xavier Bertrand, quel jeu dangereux de la part
jeu
de Macron.
Dangereux de LREM. Parce que lorsque Dupond-Moretti dit... il est à la fois à la région et à l'Élysée, mais lui aussi, quelque part.
Oui.
Il est à la fois à la région et à l'Élysée. Et c'est l'ennemi à abattre, entre guillemets, l'ennemi, hein, l'homme à abattre en 2021 dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Et c'est vrai qu'effectivement, je vous suis dans votre rhétorique. En 2022, ça sera Marine Le Pen. Mais là où vous avez raison, c'est que finalement, prenons, nous, on fait des calculs, on fait des jeux d'alliance, de réalliance, de contre-alliance. On est très bon là-dessus. Sauf que les citoyens, ils se disent, mais. Au fond, quelles sont les parties prenantes de ces combinaisons? Mmh. Eh bien, c'est La République En Marche et Les Républicains. Eh bien, effectivement, c'est quand même, je pense, toute cette histoire, ça fera le jeu du Front National, enfin du Rassemblement National et de Marine Le Pen. Ça, c'est un premier point. Et il y a quand même aussi un potentiel d'abstention qui aussi peuvent... par colère, surtout en ce moment, je dirais, poursuivre leurs gestes et leurs votes favorables au Rassemblement National. Et puis, deuxièmement, pardon de le dire, mais ce Big Bang, il a eu lieu sur le plan institutionnel au déficit des Républicains, parce qu'il est, je dirais, explosé face au puzzle. Et puis, effectivement, on se dit, mais pourquoi Estrosi, il n'est pas plutôt venu... pourquoi il n'a pas plutôt quitté les Républicains? Au fond, idéologiquement, il est à peu près pareil. Au fond, les républiques, ce système-là est en train de bordéliser, entre guillemets, les républicains, mais au fond, d'apporter une certaine clarté idéologique.
Oui.
Il est temps qu'à un moment donné, ils se disent, voilà en quoi nous ne sommes pas, je dirais, libéraux sur le plan économique et puis libéraux sur le plan sociétal. Alors, est-ce qu'on est gaulliste ou pas? Et il est à définir. Et dans quelle mesure on n'est pas Rassemblement National.
Ah bon.
Ce sujet-là, il n'a pas été traité sur le fond.
Ils ne font pas l'économie de ce sujet, de ce débat.
Ben, je me demande, figurez-vous, s'ils ne font pas l'économie, pourquoi? Parce que Xavier Bertrand, ses premières prises de position, dans le Point notamment, c'est de rassurer son électorat, mais de faire en gros, je dirais quelque chose qui est en gros, qui poursuit la politique d'Emmanuel Macron.
Bien
c'est-à-dire, il faut baisser les charges sociales. Il faut baisser les impôts, il faut être dans la compétitivité et on a un semblant de posture patriotique pour faire bonne mesure auprès d'un électorat supposément gaulliste. Non, je pense que quelque part, moi, je regrette ces jeux de combinaison, mais je me réjouis que ça doit être un moment clé, un point clé pour que les républicains définissent leur logiciel idéologique.
Il y aura forcément une recomposition politique à l'issue de ces élections.
Il y aura forcément une recomposition politique de toute façon, parce qu'il y a quand même une chose qui est assez claire dans la Ve République, c'est qu'au second tour, il n'y a que deux places. Et pour l'instant, si les sondages... Alors, les sondages sont souvent totalement à côté de la plaque un an avant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le paysage actuel, c'est Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Et les Républicains, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas trancher ce débat? C'est parce qu'ils veulent se dire, on n'est pas obligé de choisir entre les deux, nous, on a notre propre ligne. Sauf que leur propre ligne est de plus en plus difficile à faire exister sur la scène politique, parce que, mine de rien, la dernière fois, ils n'ont pas été qualifiés au second tour à la présidentielle.
C'est vrai.
Et la fois d'avant, ils avaient perdu.
Et oui.
Donc, il y a un peu, en plus, une question
de
survie pour eux. Si jamais ça fait trois fois de suite que leur parti, qui a quand même, à la base, créé la Ve République, n'est même plus capable de gagner la présidentielle.
C'était
un petit peu leur terrain de jeu depuis que De Gaulle avait créé la Constitution. Ils auront un vrai problème de limite à quoi on sert.
Quelques secondes, Jean-Garic, pour
terminer. Complètement d'accord. Les droites républicaines n'ont plus véritablement de parti, n'ont plus de leader et n'ont pas véritablement d'identité programmatique. C'est très clair. Renaud Muselier, il est plus proche d'Emmanuel Macron que d'Yvan Jacob. Donc, bien là quelque chose qui est un trouble fondamental de la droite. Et je souscris totalement à ce qui vient d'être dit sur la nécessité d'une clarification idéologique, parce qu'au fond, on ne voit plus aujourd'hui ce qu'est véritablement l'identité de cette droite républicaine. Il y a d'un côté une sorte de centre-droit que représente Emmanuel Macron, et de l'autre côté, le Rassemblement National.
Jean Garrigue, merci pour cette lecture et ce débat des grandes voix. Aurélie Herbemont, Franck de Dieu, de Marianne, merci à tous les trois, et à très bientôt sur Europe 1. Tout de suite pour l'info.
Europe 1, Wendy Bouchard.